9h, 14h. La quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
L'émission Le Bistrot du Livre, proposée en partenariat avec Cépage d'Encre, en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, et autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. Non, définitivement non. Pas d'accord avec tous ceux qui vantent ou déplorent la douceur de cet hiver. Pas d'accord du tout. Je dirais que cet hiver est rude, très rude même, pour tous les amateurs de livres, de lecture, de création. Et cette émission en fait la cruelle démonstration. Hiver très rude, car il y a quelques semaines, on apprenait la disparition d'un Pierrot Lunaire, d'un ami, un écrivain, dramaturge de grande qualité, un voisin de Narbonne, auquel nous avions consacré le deuxième épisode de ce Bistrot du Livre, Emmanuel Darlet. Emmanuel s'en est allé fin janvier, décidant de poser son stylo sur un quai de Saint-Nazaire pour passer de l'autre côté de l'horizon. C'est en pensant à lui que je vous dis que l'hiver est rude. Et puis, il y a eu Bowie, David Bowie, grand aventurier de la création, et qui, dans un ultime sursaut, nous livrait un dernier album, enregistré quelques jours avant de disparaître. Et si je vous parle de Bowie, c'est que ces jours-ci, un autre grand, très grand de la création, est mort quelques jours avant la parution de son dernier ouvrage. Un qui, comme Bowie, ne fixait aucune limite à sa curiosité, à son génie, à ses inspirations. Avec lui, ce n'est pas une bibliothèque qui disparaît, comme dit le proverbe africain. Ce sont des dizaines et des dizaines de bibliothèques. Car cet homme-là était une encyclopédie à lui tout seul, au savoir universel, ou presque. Aujourd'hui encore, plus de 2 semaines après sa mort, dans les carnets nécrologiques du monde, il ne se passe pas une journée sans qu'un institut, une académie, une université à travers le monde entier ne salue la disparition del maestro, el dottore.
Maestro, dottore, Umberto Eco.
Umberto Eco, un géant, un ogre, un esprit hors du commun, un chercheur, un pionnier, et qui plus est, auteur à succès, quand, pour se distraire, il s'amusait à écrire un roman, jamais moins de 600 pages, où il mêlait savoir immense, humour délicat et enquête policière. Cela devenait un phénomène mondial, traduit en des dizaines et des dizaines de langues, et pouvait devenir aussi un des classiques du box-office hollywoodien. Si je vous dis Le nom de la rose, avec Sean Connery, cette enquête au cœur d'une communauté religieuse de la fin du Moyen-Âge, Le nom de la rose, eh oui, Umberto Eco. Et il n'y a qu'à lire la 4e de couverture pour vous plonger dans l'univers du maestro.
En l'an de grâce et de disgrâce 1327, rien ne va plus dans la chrétienté. Des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes. Lorsque Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, arrive dans le havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye située entre Provence et Ligurie, que tout l'Occident admire pour la science de ses moines et la richesse de sa bibliothèque, il est aussitôt mis à contribution par l'abbé. La veille, un moine s'est jeté du haut des murailles. C'est le premier des assassinats qui seront scandés par les heures canoniales de la vie monastique. Crime, stupre, vice, hérésie, tout va advenir en l'espace de 7 jours.
Le nom de la rose, mais que les best-sellers du maestro ne nous fasse pas oublier l'essentiel, les travaux de recherche, l'enseignement du dottore. Fils d'une famille de la petite bourgeoisie du Piémont italien, Umberto Eco, il est né en 1932, passe sa jeunesse à l'ombre de la guerre.
Entre 11 et 13 ans, j'ai appris à éviter les balles.
Alors, est-ce ce sentiment d'insécurité qui le pousse à apprendre, à vouloir tout connaître, tout lire? Peut-être, sûrement. Il se lance avant tout dans des hautes études de sémiologie, la science des signes. Il enseigne à l'université, fonde ses recherches sur le langage et s'intéresse, à travers divers essais et articles, à l'esthétisme, mais aussi à la communication. Exemple, sa thèse, portée sur l'esthétisme chez Saint Thomas d'Aquin. Mais l'intellectuel ne se contente pas de la théorie. Sa curiosité lui ouvre 1000 portes. Celle de la RAI, par exemple, la télé italienne, où il est assistant pour la programmation culturelle. Dans l'édition aussi, où il fonde une première revue, puis pour diriger une collection sur la philosophie. D'une chaire à l'autre, il continue ses cours de Florence à Turin et Bologne, de Sao Paulo à New York et Buenos Aires. Et en 92, il obtiendra en France une chaire au Collège de France, autant dire le Graal de l'enseignement universitaire. Et entre deux cours, il écrit. Et un peu comme Roland Barthes en France, il s'intéresse aux médias dont il dénonce le superficiel et le faux, mais aussi au football, à la mode, à Superman, à la pub ou au terrorisme. Autant d'articles qui le font connaître au-delà du cénacle universitaire. Exemple avec humour, son étude sur notre quotidien, ce qui nous a servi et nous gâche l'existence. Le titre, à lui seul, mérite le détour.
Comment voyager avec un saumon ? À en croire les journaux, notre époque est troublée par deux grands problèmes. L'invasion des ordinateurs et l'inquiétante expansion du tiers-monde. C'est vrai, et moi, je le sais. Dernièrement, j'ai fait un voyage bref, un jour à Stockholm et trois à Londres. À Stockholm, j'ai eu le temps d'acheter un saumon fumé énorme, à un prix dérisoire. Il était soigneusement emballé dans du plastique, mais on m'a conseillé, puisque j'étais en voyage, de le garder au frais. Facile à dire. Heureusement, à Londres, mon éditeur m'avait réservé une chambre de luxe, équipée d'un frigo-bar. Arrivé à l'hôtel, j'ai eu l'impression d'être dans une légation de Pékin pendant la révolte des Boxers. Des familles campant dans le hall, des voyageurs enfouis sous des couvertures dormant sur leurs bagages. Je m'informe auprès des employés, tous indiens plus quelques malais. Ils me répondent que la veille, le grand hôtel s'est doté d'un système informatique qui, par manque de rodage, venait de tomber en panne 2 heures auparavant. Impossible désormais de savoir si les chambres étaient libres ou occupées. Il fallait attendre.
En fin d'après-midi, l'ordinateur était réparé et j'ai pu prendre possession de ma chambre, préoccupé par mon saumon. Je le sors de ma valise et me mets en quête du frigobar. D'habitude, les frigobars des hôtels normaux contiennent 2 bières, 2 eaux minérales, quelques mignonnettes, un petit assortiment de jus de fruits et 2 sachets de cacahuètes. Celui de mon hôtel, gigantesque, contenait 50 mignonnettes de whisky, gin, Courvoisier, Grand Marnier et autres Calvados, 8 Carperiers, 2 de Badois, 2 d'Evian, 3 bouteilles de champagne, plusieurs canettes de bière hollandaise et allemande, du vin blanc italien et français, des cacahuètes, des biscuits salés, des amandes, des chocolats et de l'Alka-Seltzer. Aucune place pour mon saumon.
2 grands tiroirs s'offraient à moi. J'y ai déversé tout le contenu du frigo, j'ai installé mon saumon au frais et je ne m'en suis plus occupée. Le lendemain, 4 heures, mon bestiau trônait sur la table et le frigo était de nouveau rempli jusqu'à la gueule. J'ouvre les tiroirs et constate que tout ce que j'y avais déposé la veille était encore là. Je téléphone à la réception et demande d'avertir le personnel d'étage que s'il trouve le frigo vide, ce n'est pas que je consomme tout, mais c'est à cause d'un saumon. On me répond que cette information doit être donnée à l'ordinateur central, car le personnel n'étant pas anglophone, il ne peut recevoir des ordres parlés, mais seulement des instructions en basique. J'ai ouvert 2 autres tiroirs pour y transférer le nouveau contenu du frigo, dans lequel j'ai ensuite logé mon saumon. Le lendemain, à 4 heures, l'animal gisait sur la table et commençait à dégager une odeur suspecte.
C'est ça l'humour d'Umberto Eco, entre absurde à la De Vos et le burlesque à la Keaton. Mais ces pastiches et postiches, comme il les appelle, ne sont qu'une toute petite partie de l'œuvre du maestro. Un vaste travail sur le rapport, par exemple, entre les livres et leurs lecteurs, ou comment fonctionne le travail du lecteur, quelle place l'auteur doit-il laisser à celui qui va découvrir son œuvre. Exemple, dans un roman qui s'appelle Bodolino, c'est l'histoire d'un menteur, un roublard italien, qui va se faire remarquer et s'installer à la cour de l'empereur Barberousse.
Mais mon histoire est peut-être dénuée de tout sens. Des histoires dénuées de sens, il n'y en a pas. Et moi, je suis de ces hommes qui savent en trouver un, même là où les autres n'en voient pas. Après quoi, l'histoire devient le livre des vivants, une trompette retentissante qui fait ressusciter de leur sépulcre ceux qui étaient poussière depuis des siècles. Seulement, il faut du temps, considérer les péripéties, les regrouper, découvrir leurs liens, fût-ce les moins visibles.
Autre sujet d'interrogation et d'étude pour Umberto Eco, c'est le rôle que jouent les médias avec notamment un livre intitulé « Numéro zéro » et la question entre information et désinformation, notamment sous l'ère de Berlusconi. Et tant d'autres recherches qui demanderaient plusieurs émissions. Une encyclopédie vivante, je vous le disais. Un autre exemple de ce savoir sans limite, on le trouve dans un ouvrage tout à fait singulier.
Vertige de la liste.
Vertige de la liste. Eco s'attache à étudier tous ceux qui, en littérature, peinture, musique, vie ordinaire, recourent à la liste. Il en analyse la fonction et le sens, en universitaire qu'il est, de la Bible à l'Odyssée jusqu'à aujourd'hui, en distinguant deux types de listes, la liste pratique et la liste poétique.
L'exemple type de la liste pratique, c'est la liste des courses, la liste des invités d'une fête, le catalogue d'une bibliothèque, l'inventaire des objets dans un lieu quelconque, bureau, archives, musée, l'énumération des biens dans un testament, une facture de marchandises à payer, la carte d'un restaurant, le recensement des sites dans un guide touristique, jusqu'au dictionnaire, qui enregistre toutes les entrées du lexique d'une langue donnée.
Et Umberto Eco d'analyser le rôle, le fonctionnement de ces listes, pour en arriver aux listes poétiques, en prenant par exemple l'exemple du peintre Archiboldo, qui après avoir énuméré tous les fruits et légumes existants, les fait entrer dans un tableau pour en composer un visage. C'est ça, l'école d'Umberto Eco. Tous les sujets sont bons à étudier, à disséquer, à mettre en perspective. Un savant comme on en trouvait au siècle des Lumières, avec les Diderot, les Voltaire, et cette qualité rare chez les grands barons des universités, être sérieux sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Dans l'un de ses derniers ouvrages, Le cimetière de Prague, il abordait aussi une idée très en vogue aujourd'hui avec Internet, l'idée du complot. On parle beaucoup de ces fumeuses théories du complot qui prolifèrent sur la toile. Eh bien, pour Umberto Eco, tout simplement, c'est le symptôme d'une paranoïa.
L'idée du complot universel continue même à nos jours. Vous savez qu'on a même imaginé que les deux tours n'ont pas été détruites par Al-Qaïda, mais par les Juifs, par la CIA, par Bush, qui n'était pas assez intelligent pour détruire des tours. On a essayé la paranoïa du complot dit que les Américains ne sont pas arrivés sur la Lune. Il a été toute une fiction. La paranoïa du complot. Gaddafi est en plein paranoïa du complot, est en train de dire que ce sont ses ennemis qui ont donné la drogue aux gens libyens sans avoir l'idée que non, c'était lui qui avait tiré un peu trop la corde. Donc la paranoïa du complot est terrible, c'est une maladie. On a écrit des études anthropologiques sur ce besoin presque instinctif de toute société de trouver un bouc émissaire.
Umberto Eco, un écrivain protéiforme, un chercheur sans limite, qui s'est éteint le 19 février à Milan. Vraiment à découvrir ou à redécouvrir sans faute. Voilà pour le chapitre qu'on a raccourci de Umberto Eco, parce qu'il y aurait trop à dire. Et maintenant, sur le comptoir des livres, quel bouquin aujourd'hui, Françoise ?
Alors, un livre qui aurait sans doute plu à Umberto Eco. Il l'aurait sans doute eu dans sa bibliothèque. Il aurait pu le glisser, le classer tout près de Vertige de la liste, parce qu'il s'appelle Au bonheur des listes. Donc, c'est un recueil de listes historiques, inattendues et farfelues. Donc ce titre, Un bonheur des listes, c'est un format superbe d'encyclopédie, très documenté, très illustré, très belle. Il y a 310 pages et il y a 125 listes Elles sont internationales. Elles sont signées d'écrivains, de savants, d'artistes, de groupes, de gens qui sont connus, qui ne sont pas connus. Il y en a même qui sont d'auteurs anonymes. Alors, par exemple, il y a la liste des courses de Michel-Ange, les 7 péchés sociaux de Gandhi, les comparaisons de Raymond Chandler, les 50 nains de Walt Disney, le décalogue de la mafia. Voilà, tout ça, 125 comme ça. Elles ont été réunies par Sean Usher, qui est un auteur britannique, qui sont plongés dans les archives du monde entier pour produire cette anthologie riche, visuelle, superbe, addictive même, je dirais, pour moi en tout cas. Donc c'est publié aux éditions du Sous-Sol. Ça a été traduit et annoté par une dame qui s'appelle Claire Debru. Et voilà, je vous dire aussi que j'aime autant les listes que les dictionnaires, donc je me régale à lire ce livre-là, Le Bonheur des listes.
Et de mon côté, ce sera un polar italien, ça s'appelle Suburra de Giancarlo Cataldo et Carlo Bonini. Bonini est journaliste d'investigation à la Repubblica, et de Cataldo est un ancien juge de Rome. Il avait déjà signé un best-seller sur la mafia, Romanzo Criminale, qui lui avait valu cette réplique d'un mafieux emprisonné par ses soins. Lui a écrit le roman, moi, je lui écrirai son épitaphe. Sans commentaire. Aujourd'hui, l'ancien juge est menacé, mais ça ne l'empêche pas de décrire le côté obscur de l'Italie d'aujourd'hui. Dans Suburra, vous avez le cocktail, drogue, business, règlement de compte. Et son corollaire, politique véreux, mafieux de toutes origines et prostituée sans issue. Au cœur du système, le samouraï, un ex-fasciste qui réussit à s'allier à toutes les familles de la mafia, sicilienne, calabraise, napolitaine et gitan des Pouilles, pour un immense projet immobilier entre Rome et la mer. En appui, des députés héroïnomanes et amateurs de jeunes femmes qui vous arrangent les lois et la réglementation sur mesure. Tout pourrait aller pour le mieux, sauf qu'une prostituée meurt d'une overdose dans la chambre du député. Et les ennuis commencent. C'est écrit au scalpel, ça démonte tous les rouages d'une société pourrie où finances, politique et mafia se répartissent les rôles. On sent que le juge connaît son sujet sans trop se soucier des représailles. On en sort avec l'envie de prendre un grand bol d'air frais, mais c'est super. Dernière chose, sur l'agenda cette semaine, un rendez-vous que vous fixe ces pages d'encre, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, mais un rendez-vous très, 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 très intéressant. Ce sera mercredi prochain, le mercredi 9 mars, à la salle des fêtes d'Oupia. Oupia, c'est juste à côté de Lonzac. À partir de 18h30, on va recevoir une des vedettes de la traduction des polars suédois. C'est elle qui avait traduit notamment les 3 premiers tomes de Millennium. Elle en a traduit à peu près pour la collection Actes Sud Noir une trentaine de ces polars suédois. C'est elle qui l'a fait connaître cette vogue du polar suédois en France. Elle s'appelle Lena Grumbach. Elle habite pas très loin d'ici. Et elle viendra nous parler de son travail de traductrice. Comment on devient traductrice de romans? Comment on travaille? Comment on respecte le style de l'auteur tout en intégrant les valeurs que représente le lecteur qui n'est pas forcément suédois mais français? Et ce sera donc à partir de 18h30, Lena Grumbach, traductrice chez Actes Sud, mercredi 9 mars à 18h30 à la salle fête d'Oupia. C'est libre et gratuit, on vous y attend et ce sera vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci Henri, merci Françoise.
Merci Alexis, à bientôt, au revoir.